Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 5. Aujourd'hui, on revient sur un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous, la charge mentale. Avant d'aller plus loin sur le sujet, si vous vous demandez là, c'est quoi la charge mentale ? On a reçu il y a quelques temps dans l'émission la dessinatrice Emma qui a popularisé ce concept en France il y a quelques années. Alors elle dialoguait avec Agathe Le Caron pour tenter de donner la meilleure définition au concept de charge mentale. Extrait parlant.
La charge mentale, c'est le fait de planifier les tâches, donc anticiper qui va manger à la maison, qui a besoin de vêtements, de sport, de costumes, etc. Et c'est pas faire les choses, donc c'est les prévoir, dire qui va les faire, et c'est différent de l'exécution.
C'est en fait n'avoir jamais rien dans la tête que soi, parce que normalement, avant d'avoir des enfants, on pense surtout à soi, et puis à partir du moment où on en a, de toute façon, même quand on se détend, même pendant un massage, moi je me dis, c'est bien ce que j'ai fait la machine, tiens, le pédiatre. C'est ça la charge mentale, c'est qu'on n'est jamais tranquille.
Oui, voilà, c'est le fait de. Quand on est dans un endroit sur une tâche, on est en train de penser à quelque chose qui va se passer ailleurs. Donc on cumule. Et oui, typiquement dans les moments de détente, c'est là que les idées viennent toutes seules. Et on se rend compte, voilà, c'est assez édifiant que les premières choses qui viennent, c'est pas mon projet au boulot ou les hobbies ou ce genre de choses, c'est les tâches ménagères à planifier.
Voilà, ça y est, le cadre est posé. Je l'avais dit que le sujet allait vous parler, non ?
Il faut penser à son boulot, évidemment. Il faut penser à toute la paperasse personnelle, les impôts, les papiers divers. Il faut aussi penser évidemment aux enfants, etc. Les rendez-vous chez le médecin, vérifier que leurs vaccins sont toujours à jour.
Liste non exhaustive. Il se dit, il se murmure que cette charge mentale, elle repose surtout sur les femmes. Donc dans les couples, ça crée des tensions pas simples à gérer.
Moi j'ai l'impression qu'il se repose sur moi parce que je suis là, mais moi j'ai pas vraiment l'impression que je puisse me reposer sur lui quand il est là.
Situation compliquée, mais courante, bien sûr, vous le savez bien. Alors dans ce podcast, vous allez entendre des témoignages de mères, pas loin du craquage, du vrai, du burn-out, comme on dit, mais aussi de bons conseils de femmes qui ont réussi à mieux appréhender le sujet.
Être maman, c'est génial, c'est extraordinaire, ça change la vie, mais on a quand même le droit de se plaindre. On n'est plus femme uniquement, on ne s'appartient plus, c'est apprendre autre chose. C'est une expérience qui chamboule tout. De manière positive comme négative, il ne faut pas se le cacher. L'esprit et le corps ne suivent pas forcément le rythme que l'on nous impose, que l'on s'impose et que l'extérieur nous impose. Je pense qu'il faut faire le tri.
Faire le tri, vous allez voir que c'est un bon conseil à noter. Faire le tri dans sa charge mentale. On pourrait dire faire le tri dans les trucs chiants auxquels on doit penser. Vous êtes prêts, on y va ? Mais juste avant, vous avez pensé à prendre le rendez-vous chez le pédiatre ? Bonjour Aurélia Schneider.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes psychiatre, basé à Paris, et vous êtes l'auteur d'un livre qui avait fait sensation, La charge mentale des femmes, sorti aux éditions Larousse, c'était en 2018. C'est assez récent donc, qu'on parle à ce point de la charge mentale.
Oui, on parle beaucoup depuis 2017 surtout, quand Emma avait réactualisé le concept en le remettant au goût du jour pour parler de la charge mentale domestique des femmes. Pas mal d'ouvrages d'ailleurs sont sortis sur le sujet.
Est-ce que vous avez de plus en plus de patientes qui viennent en vous disant « j'ai un problème de charge mentale » ou alors elles ont encore du mal à mettre un mot sur les mots justement qui sont les leurs ?
Alors, ce serait pas forcément un motif de consultation, mais quand même maintenant ça sort dans la consultation. C'est-à-dire que les patients peuvent dire qu'ils sont stressés, qu'ils ont trop de choses à faire, qu'ils sont surmenés, et va intervenir dans la conversation de prise de contact, par exemple le bilan de départ. Cette notion de charge mentale, on va aussi en parler.
Comment vous la définiriez, la charge mentale, en une phrase, pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ?
C'est le fait de se trouver en gérance de plusieurs dossiers en même temps. C'est pas la double journée. On a tendance à se dire, c'est trop d'avoir le boulot et puis ensuite d'avoir sa maison. C'est pas successivement, c'est en même temps, vous devez gérer des choses qui se passent ailleurs et des choses qui se passent là où vous êtes. Et donc, il y a plein de dossiers qui s'ouvrent en même temps dans votre tête et qui ne sont jamais refermés. Ce sont des to-do listes à rallonge. Les to-do listes sont les listes que l'on fait pour ne rien oublier. Et au cours de la journée, elles se rallongent et elles s'alourdissent. Et il faut penser à tout en même temps.
C'est de l'hypervigilance qui peut d'ailleurs même la nuit. On a reçu, vous allez le voir, quelques témoignages de femmes qui nous disent « moi, je suis réveillée en pleine nuit en me disant « mince, j'ai oublié demain, il y a la sortie scolaire, j'ai pas fait le pique-nique ».
C'est une forme d'hypervigilance, mais une hypervigilance qui est liée aussi à l'hyperactivité que l'on doit avoir. Parce que l'hypervigilance, elle est en lien avec notre vie de tous les jours qui est quand même très chargée également, il faut le dire.
Alors, on a reçu beaucoup de témoignages qui illustrent bien notre sujet. Vous allez le voir, le premier est signé Isabelle.
Bonjour, je m'appelle Isabelle. Moi, la charge mentale, c'est un concept que je manie, on va dire, au quotidien. Je vis avec depuis un peu plus de 6 ans maintenant.
J'ai un grand garçon de 6 ans donc, et puis un petit bébé de 3 mois. Et en fait, pour moi, la charge mentale, c'est plein de domaines différents. Dans ma tête, plein de choses qui se mélangent au quotidien, tous les jours. Il faut penser à son boulot, évidemment, puisque je travaille et puis mon mari aussi. Il faut penser à toute la paperasse personnelle, les impôts, les papiers divers qu'il faut renvoyer avec une date butoir, sinon il peut y avoir des conséquences importantes. Il faut aussi penser, évidemment, aux enfants. Les enfants, ça veut dire gérer les dates du centre aéré qu'il faut réserver à temps, sinon on n'a plus de place. Il faut s'occuper des activités périscolaires, les dossiers d'inscription, etc. Les rendez-vous chez le médecin, vérifier que leurs vaccins sont toujours à jour. Et puis, il se trouve qu'on a deux nounous, une pour le grand, une pour le petit. Donc, vérifier qu'on n'a pas oublié de les payer, de leur établir leur fiche de paie, etc. De les prévenir des changements d'horaire et tout et tout. Et puis à la maison, bon, il y a plein de choses, plein de tâches ménagères, mais je prends un exemple tout bête, préparer les repas. Il faut, bon, le temps de le faire, d'accord, mais il faut, en fait, en amont, il y a plein d'étapes. Il faut déjà alimenter la liste de courses au quotidien. Dès qu'on finit une boîte, je sais pas, un paquet de sucre, bah, il faut penser à noter d'en racheter, sinon après on se retrouve, on n'en a plus. Il faut réfléchir un peu au menu pour essayer de varier, de manger équilibré, manger de saison, enfin voilà, plein de petites contraintes qu'on se met quand on veut être une super maman. Mais ça veut dire aussi qu'il faut s'organiser pour aller faire les courses. Quand on travaille, c'est pas forcément évident, puis que en dehors du travail, on est souvent avec les enfants. Donc est-ce qu'il vaut mieux se prévoir un petit moment spécial dans la semaine pour faire les courses? Bon, tout ça, ça s'organise. Donc c'est vraiment jongler avec plein de choses. C'est pas tous les jours facile. Nous, au quotidien, on a quelques petites choses qui nous aident. La première chose, moi, que j'ai, c'est un groupe de copines sur WhatsApp qui sont mamans aussi et à qui je peux tout raconter, mes galères. Quand je trouve que j'en ai marre, que c'est trop dur, eh ben, on se soutient, on partage, et ça me paraît essentiel. La deuxième chose, c'est évidemment, on communique en couple, parce que souvent, la charge mentale, c'est quand même les mères qui se la prennent en pleine figure, et ça vaut le coup de poser régulièrement les choses, pas qu'une seule fois, mais un peu, voilà, régulièrement dans sa vie de couple, de se redire ce qui nous pèse, ce qui nous pèse moins, de se répartir un petit peu les tâches. Moi, par exemple, c'est mon mari qui gère les lessives et leur passage. Et s'il a des chemises qui sont pas lavées et pas sèches, ben tant pis, c'est lui qui gère. La dernière chose aussi, c'est faire des listes. Alors ça, c'est mon truc à moi. Je sais que ça correspond pas à tout le monde. Moi, je fais des listes partout. Des listes sur mon téléphone avec des alarmes que je déclenche une semaine avant, 2 heures avant, 30 minutes avant pour penser à faire tel ou tel truc. Et aussi des listes papier à la maison, parce que quand on peut rayer ou gribouiller une tâche qu'on vient de faire, c'est quand même hyper jouissif et c'est hyper agréable. Dernière chose peut-être, mais ça c'est encore peut-être le plus dur, c'est de lâcher du lest sur certaines choses. Apprendre à gérer les priorités et à ne plus faire ce qui est peut-être moins important, tant pis, et apprendre à être moins parfaite au jour le jour. Ça, il faut encore y travailler.
Voilà pour le message d'Isabelle. Il y a beaucoup de choses.
Formidable son message. Alors, elle nous a juste dit qu'en fait, c'était la gestion d'une PME. Hein, c'est ça, il y a la paperasse, les délais, le fisc, les clients, les fournisseurs. Enfin, voilà, il y a les horaires de la nounou, il y a tout à faire. Et aussi, elle a très bien dit, il y a la gestion des stocks, et qui est en plus différente de la gestion des courses. C'est-à-dire les courses pour les repas, puis après, il y a ce qu'il faut avoir dans une maison de base. Et puis après, toutes les choses qu'il faut, auxquelles il faut penser au quotidien.
Et alors, ce qui est marrant dans les solutions qu'elle cherche pour elle-même, elle dit qu'elle fait des listes, des to-do listes. Et vous, tout à l'heure, vous disiez que c'est la liste, c'est un peu le symbole de la charge mentale qui explose. Est-ce qu'on pourrait lui conseiller de faire moins de listes, par exemple?
Alors en fait, moi, je crois que c'est chacun son truc. Alors la charge mentale, chez certains, elle est bien tolérée. Il faut dire qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui tolèrent très bien ça et qui se débrouillent bien et qui ont finalement une vraie performance dans le fait de fonctionner, de réussir à fonctionner. Elle dit, il y a quelque chose de jubilatoire dans le fait de rayer les items sur les to-do list. Alors, elle a raison, c'est vrai. Le gros problème, c'est quand on ne s'en sort pas et que ces listes, pour elle, ça convient, mais pour une autre personne, ces listes seront trop denses, trop grosses, et qu'il n'y aura pas assez d'items cochés, et que du coup, ça correspondra à une culpabilité, et que ce sera dévalorisant. Zut, je n'ai pas fait ce truc-là. Zut, je n'ai pas fait assez. Et donc, la to-do list se transforme en un outil plutôt négatif, lorsqu'il est justement responsable d'entraîner de la dévalorisation, de la culpabilité. Isabelle, elle dit, moi, je suis contente quand je raye des items, quand je gribouille sur les items, je suis contente. Donc, c'est vraiment très individuel. Mais il y a des personnes qui peuvent être assez mal à l'aise avec une to-do list à rallonge. Et Isabelle nous dit un truc très important qu'elle a détecté elle-même, qui est fondamental, il faut prioriser. Moi, j'appelle ça hiérarchiser. C'est-à-dire qu'elle dit, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Elle a dit, est-ce qu'il faut être la maman parfaite quand on fait les petits repas, les menus, les machins, les légumes épluchés ? Peut-être qu'il faut hiérarchiser et se dire qu'on va mettre d'autres choses en priorité, que sur la to-do list, il va y avoir que quelques items qui sont les priorités. Et là, on aura la satisfaction de les gribouiller. S'il y a 4 items sur la journée, vous allez avoir plus de chances de les gribouiller que s'il y en a 15.
C'est un peu le secret, non, ce que vous venez de dire là, et ce qu'elle dit elle-même, c'est-à-dire la quête de la perfection. Peut-être qu'il y a une génération ou deux, les parents cherchaient un peu moins cette perfection, j'en sais rien. Ou en tout cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, elle donne l'exemple des légumes de saison. Alors c'est un exemple précis, c'est important de manger des légumes de saison, mais si ça devient une prise de tête en plus de toutes les autres, on peut peut-être lâcher de temps en temps et manger des tomates quand c'est pas la période.
Alors oui, c'est vrai, les légumes de saison. Mais surtout, il y a des légumes de saison dans les boutiques de surgelés.
Oui.
Donc ce sont des légumes de saison, si on veut. À ce moment-là, on peut se les procurer, ils sont déjà tout épluchés, parfois même ils sont bio, de bonne qualité, et on peut faire des repas dans un temps plus rapide. Mais tout va dépendre de la priorité que l'on se donne à soi. Si, par exemple, la priorité, c'est le repassage du linge, c'est l'entretien de la maison soit nickel, et que les robes des petites filles soient repassées, à ce moment-là, c'est une priorité qui est tout à fait louable. Par contre, il va falloir faire une coupe sèche sur d'autres choses. À ce moment-là, on ira peut-être se tourner vers des surgelés pour les légumes.
Dans votre livre, ce qui est intéressant, vous donnez un petit conseil, une idée de liste, c'est de lister, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire pour réaliser tout ce qu'on a fait dans une journée.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois pas mal de femmes. Moi, j'ai des patients déprimés et anxieux à mon cabinet. Et je vois des femmes qui sont en total surmenage, qui sont déprimées, et qui me disent, mais moi, de toute façon, je suis au foyer, je fais pas grand-chose. Et moi, je leur dis, c'est faux. Vous faites des choses. Faites-moi la liste, faites-moi votre emploi du temps. Depuis le matin où vous levez jusqu'au soir, tout ce que vous avez fait, demi-heure par demi-heure. Et là, on s'aperçoit que des femmes qui sont au foyer, qui ont l'idée qu'elles ne font pas forcément grand-chose parce que c'est du travail invisible, puisqu'il faut le faire, ce travail-là. Il faut accompagner les enfants pour se faire faire le vaccin. Il faut le certificat médical pour le cours de sport qui va demander à la rentrée scolaire un certificat médical pour l'inscription. Il faut avoir pensé à le faire en juin. Tout ça, c'est du rétro-planning permanent. Mais en fait, les femmes pensent que c'est rien. Et donc, se dire, se montrer à soi-même tout ce qu'on a fait dans la journée, c'est hyper gratifiant. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ces listes-là de ce qu'on a fait, c'est la gratification. Parce que souvent, quand on est totalement surmené, surchargé, on oublie de se gratifier, on oublie de se dire que, en fait, oui, c'est quand même, on a fait ça, on a fait ça, ah oui, on a fait ça, on s'en souvient même plus de ce qu'on a fait.
Et ça, ça fait du bien. Alors, vous pourrez dire à vos patientes que la ministre des Sports vient d'annoncer que dorénavant, il n'y aurait plus besoin de certificat médical pour le sport à l'école. C'est pas encore voté, mais ça fait déjà une tâche en moins.
C'est oui, bah très bien, mais parce que en fait, c'est toujours très très, c'est casse-pied. Enfin, c'est du rétro-planning permanent.
Et c'est un petit truc plus un petit truc plus un petit truc. Allez, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage, celui de Sophie.
Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je suis mariée et je suis maman de 2 enfants de 4 ans et 7 mois. La charge mentale, je dirais qu'elle fait partie de mon quotidien. Clairement, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le bazar, et pourtant je peux en mettre, mais le problème c'est que moi j'ai un déclic à un moment qui me dit qu'il faut que je range. Donc il y a des week-ends où je peux passer ma journée à ranger, et c'est un peu mon quotidien, hein, c'est ranger les jouets de ma fille qui traînent, parce que je lui demande de le faire, mais à 4 ans, voilà, elle n'oublie pas forcément. Ranger la vaisselle sale qui traîne, ou ranger les chaussures qui ne sont pas rangées, ranger les vêtements qui sont un peu partout étalés. La charge mentale, c'est aussi devoir penser à ce qu'on va manger le soir et faire les courses en conséquence. C'est penser à récupérer les enfants, à les conduire le matin, que ce soit à l'école ou à la crèche. C'est également penser aux anniversaires de la famille, c'est penser aux rendez-vous médicaux des uns et des autres. C'est penser à ne pas oublier la collation à l'école, par exemple. C'est une accumulation en fait, de tâches à faire et qui font qu'à la fin de la journée, on est fatigué. C'est le moment où les enfants aussi sont fatigués. C'est là où on peut perdre patience. Et c'est là où j'aurais envie en fait, de lâcher prise un peu, de déléguer à mon mari. Alors, il m'aide, bien sûr, mais... On va dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière et moi, il me demande souvent de lui demander de faire telle ou telle chose parce que lui, il ne les voit pas forcément. Je trouve ça un peu fou, mais je pense que les hommes et les femmes, on n'est pas fait de la même façon. Et voilà, c'est un gros sujet, la charge mentale, qui est de plus en plus présente et qui peut parfois nous faire craquer et faire qu'on passe à côté de moments plus sympas et plus conviviaux en famille, en fait, je pense. Et je pense que oui, il faut prendre du recul et en parler. Ça ne peut que faire du bien.
Si vous le voulez bien, Aurélia Schneider, on va commencer par la fin, quand elle parle du rapport avec son mari. Son mari, qui visiblement est plein de bonne volonté, lui dit « moi je veux bien t'aider », mais à partir du moment où il est question d'aide, c'est-à-dire qu'il est un peu son assistant, le problème commence ici.
En réalité, elle parle de déléguer. Tout à l'heure, Isabelle disait « on a réparti les tâches, on a re-réparti les tâches ». La vraie sagesse, c'est la répartition, c'est le partage. Tant que on est dans la délégation, on est toujours en charge du dossier. Elle le dit très bien d'ailleurs, Sophie. Elle dit, mon mari ne sait pas trop ce qu'il doit faire, donc il me demande ce qu'il doit faire. Donc elle est toujours en charge du dossier. Et elle doit s'assurer de la bonne exécution. Alors évidemment, c'est mieux que rien. Mais le vrai secret, c'est le partage. Tout à l'heure, Isabelle disait, mon mari, lui, il s'occupe du linge en intégralité. Comme ça, si un jour ses chemises sont par passées, c'est son affaire à lui. Et en fait, elle s'en lave les mains, j'ai envie de dire. Et ça, c'est formidable, parce que quand on arrive à ça, mais quelle que soit la tâche, là, il se trouve qu'elle a délégué le linge à son mari, mais on peut déléguer toute l'organisation administrative. On peut déléguer la prise en charge de la voiture, par exemple. Ça a l'air plus masculin, mais c'est très très bien quand les voitures sont entretenues, que le contrôle technique est fait, parce que là aussi, il y a des rétro-plannings. Donc, l'important, c'est pas ce qu'on va demander à l'autre de faire, c'est de le répartir et de s'y tenir. Chacun sa tâche. Évidemment, on peut se relayer s'il y a un problème, mais c'est très important, sinon on est toujours en charge du dossier.
Ça reste essentiellement les femmes qui restent en charge des dossiers, qui sont un peu les patronnes des PME dont on parlait tout à l'heure. Dans votre livre, vous dites 50% de temps en plus pour les tâches ménagères pour les femmes. Je pensais même que c'était plus, moi, mais bon, on est toujours à 50%. Et il y a 30 minutes de temps libre en moins pour les femmes. Ça aussi, c'est fort. C'est-à-dire que, on le sait, les jeunes parents, ils ont peu de temps libre, mais les hommes, ils ont toujours 30 minutes de plus, même s'ils bossent plus, même s'ils rentrent plus tard.
Le temps libre, c'est d'ailleurs un des énormes points à développer, à travailler, en tout cas nous, dans nos consultations avec nos patientes, nos patients, de récupérer comment on va récupérer du temps. Alors effectivement, là, Sophie dit, moi, je suis une maniaque du rangement. Alors j'aimerais donner une petite information là-dessus. Aucun problème, si c'est une priorité pour elle, moi, ça me va très bien. Mais il faut que ce soit vivable. Et donc, qu'est-ce qu'on va un peu sacrifier? C'est ça la question. Et surtout, comment impliquer les enfants? Parce que 4 ans, sa fille de 4 ans, elle peut très très bien apprendre à ranger les chaussures. Elle peut très bien apprendre à rendre des petits services. D'ailleurs, ce qui permettra d'avoir une communication très positive avec l'enfant, de lui dire bravo, c'est bien, merci. Et on a montré que c'était utile d'apprendre aux enfants à s'impliquer dans la vie domestique. C'est même utile pour plus tard, dans leur futur couple, mais aussi dans leur état d'esprit de jeune. Et donc, que ce soit les garçons et les filles. Et donc, un enfant, dès l'âge de 2, 3, 4 ans, peut apprendre des petites tâches qui vont aider la maman. Ça peut être ranger les jouets. Alors, évidemment, au début, il va falloir montrer. Il va falloir demander, il va falloir renforcer. Mais à un moment, les automatismes vont se prendre et on arrive à des répartitions de tâches dans la maison avec les enfants qui sont impliqués. C'est très important.
Alors, je vais vous faire écouter maintenant un nouveau témoignage, celui de Marion. Elle aussi, elle parle d'une charge mentale qui l'a submergée. Vous allez l'entendre, qui l'a poussée jusqu'à quelque chose qui ressemble à être du burn-out. Écoutez.
Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 33 ans, je suis la maman de 2 enfants, une petite fille de 4 ans et un petit garçon bientôt 18 mois. Très rapidement, lors de ma première grossesse, j'étais submergée par tout ce que je devais faire. On a déménagé 10 jours avant mon accouchement, un vrai bouleversement pour moi à cette période et aucune aide, aucun soutien vraiment, on n'a pas su demander, je pense, à cette époque. L'accouchement s'est très bien déroulé, enfin, à mon sens. Hein. Et j'ai été très vite dépassée par tout ce que l'on attendait de moi. C'est-à-dire que j'étais maman, j'ai pas eu le temps de prendre mes marques, que les visites s'enchaînaient. Je pense que c'est quelque chose, j'ai beaucoup réfléchi lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. C'est cette espèce de vague qui vous happe, qui vous noie sous ce flot de relations publiques qu'il y a à gérer. Et alors, avec la reprise du boulot, on est à la fois maman, chef, collègue, amie, conjointe. On est vite dépassé par tout ça. Moi, j'ai été aussi fragilisée puisque je n'ai plus mon papa. J'ai perdu un collègue qui est décédé à mon retour au travail. Tout ça m'a beaucoup perturbée. Et un jour, mon corps m'a littéralement lâchée. J'ai eu de gros problèmes au RL. Et je pense que c'est au moment où mon corps m'a dit stop. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et malgré mes échanges avec les médecins, qui me disaient de ralentir, de me reposer, de prendre soin de moi, de manger, de dormir, clairement, j'arrivais pas à l'appliquer tout ça. Manger, dormir, prendre soin de moi, je n'avais ni le temps, ni la force, en fait, de prendre du recul sur ma situation. Et c'est quelque chose qui me paraît très tabou. Je n'ai pas su trouver dans mon entourage de personnes avec qui en parler. Ni des amis, ni de la famille. Il y a des copines qui arrivent pas à avoir un bébé. Il y a les copines qui sont célibataires, qui viennent de vous se faire larguer. Il y a les copines sur Instagram qui ont un peu la vie parfaite d'une maman très organisée. Et c'est vite un calvaire, on se sent très seul dans ce genre de situation. Mon conjoint a été très soutenant à mes côtés, mais n'a pas su entendre en fait, la situation dans laquelle je me trouvais. N'en a pas forcément eu conscience non plus, et c'est vraiment au moment où j'ai eu mes gros problèmes de santé, avec des malaises à répétition, je tombais dans les pommes, etc., que là, il a vraiment compris qu'il y avait quelque chose. Maintenant, ça va beaucoup mieux physiquement, mais je me retrouve seule pendant 10 jours avec mes enfants parce que mon conjoint est en déplacement à l'étranger. Une amie a l'amabilité de me demander devant les autres comment je m'en sors, comment ça se passe. Et j'ai le malheur de répondre que je galère, que j'en peux plus, que j'ai hâte qu'il rentre. Et j'ai un flot de paroles, mais non, mais c'est génial d'être toute seule, on peut faire d'autres choses, on peut se poser devant la télé avec les petites, regarder un film, on profite autrement. Alors déjà la télé, je suis contre, et puis je n'ai pas su encore trouver un soutien, un moral à ce moment-là. Le message que j'aimerais passer, c'est que être maman, c'est génial, c'est extraordinaire, ça change la vie, mais on a quand même le droit de se plaindre. On n'est plus femme uniquement, on ne s'appartient plus, c'est apprendre autre chose. C'est une expérience qui chamboule tout de manière positive comme négative, il faut pas se le cacher. L'esprit et le corps ne suivent pas forcément le rythme que l'on nous impose, que l'on s'impose et que l'extérieur nous impose. Je pense qu'il faut faire le tri. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire le tri dans mes relations. Faire le tri sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'il faut faire des bons choix et se poser les bonnes questions. C'est difficile, mais si votre corps vous dit stop, si à un moment donné vous n'en pouvez plus, il n'y a personne qui le fera à votre place, malheureusement. L'entourage n'est pas un soutien, à mon sens, dans ce domaine-là. Le burn-out, j'en ai jamais entendu parler. Et je trouve ça très bien qu'on fasse un sujet là-dessus aujourd'hui.
Alors merci à Marion pour ce témoignage très fort. Marion, donc submergée par ce que l'on attendait d'elle. Commençons peut-être par la fin. Instagram, les réseaux sociaux, les mères parfaites qui vont poster, elles ont 4 enfants mais tout est nickel chez elles, leurs filles, leurs garçons, tout le monde est propre, tout le monde mange bien et bio. Ça fait du mal non, aux parents de la vraie vie, les vrais gens que nous on connaît en vrai, quoi.
Là encore, si vous supportez très bien votre charge mentale, que vous êtes totalement détendu et que vous aussi vous gérez tout ça, ça peut vous faire plaisir de voir des gens heureux ou des gens souriants ou des belles photos. Je ne dis pas le contraire. Simplement, quand vous galérez, oui, c'est dur, ça fait mal. Et on se dit, là encore, mais zut, moi, ce n'est pas comme ça chez moi. Je devrais y arriver. Comment ça se fait? Je ne fais pas aussi bien que les autres. Et la tendance à la comparaison est très toxique.
Donc ça, c'est pour Instagram. Tout à l'heure, on parlait du groupe WhatsApp entre copines. Donc là, entre vraies copines, on connaît. C'est différent d'Instagram où tout est un peu fake, on le sait.
Alors, j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Isabelle sur WhatsApp. Elle parle avec ses copines. Elle a un groupe WhatsApp de copines qui vivent la même chose qu'elle. Et elle dit, c'est hyper soutenant. Pourquoi c'est hyper soutenant? Parce que chaque copine a son mot à dire. Et forcément, on ne pense pas les unes et les autres la même chose sur un événement. Et ça va tempérer, par exemple, si on se culpabilise de n'avoir pas fait quelque chose parfaitement, il y a bien une copine qui va vous dire « Non mais attends, moi ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Hein. » Alors brutalement, ça vous déculpabilise. Vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai, elle a laissé tomber, pourtant c'est une fille, c'est une fille bien, je la connais, je respecte tout à fait la façon dont elle procède. Tiens, moi aussi, je pourrais peut-être en prendre la graine et lever le pied. » Donc c'est vraiment des modèles qui sont des modèles du vrai. C'est pas des modèles parfaits, c'est des modèles de la vie réelle. Donc des modèles de filles imparfaites. Et nous sommes tous des gens imparfaits et donc il faut en prendre notre parti.
Parlons peut-être de la maternité. Ça a commencé là. C'est vrai que les premières visites, dans un moment déjà où on est fragilisé, les accouchements, c'est pas de tourpeau, on le sait, etc. Dès la maternité, ça peut commencer, en fait. Est-ce qu'il y a des petits conseils qu'on peut donner aux femmes qui vont peut-être accoucher là, les prochains jours, prochaines semaines?
Oui, alors, dès la maternité, c'est un vrai problème. La maternité, c'est un moment extraordinaire parce que vous avez votre enfant, tout le monde a envie de le voir. Honnêtement, si ça pouvait être limité au papa, les frères et sœurs et les grands-parents, ça s'arrête là. Il faut absolument limiter les visites à la maternité. La maternité, ça dure 3 jours. Pour un premier enfant, c'est un tel tsunami. On ne sait même pas le baigner, on apprend tout. Et si en plus, il faut avoir l'air justement parfait, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est fatigant, c'est épuisant. Les femmes sont quand même vulnérables dès la naissance, même avant. Et très vulnérable, il faut faire attention à ça. Il y a même des maternités qui demandent que les visites soient restreintes. Et je pense que c'est raisonnable, vraiment raisonnable. Une visite de la famille sur 3 jours, et puis le reste du temps, on prend connaissance de cette nouvelle fonction paternelle, maternelle. C'est voilà, le père, la mère, c'est suffisant.
Oui, puis ça prend, c'est déjà un tel chamboulement pour le couple. C'est bien d'être un peu tous les deux avec son bébé. Surtout que le papa, bien souvent, retourne bosser quelques jours après. Donc, il faut en profiter. Ça, c'est un conseil plein de bon sens. Je vous propose d'écouter maintenant un dernier témoignage, celui d'Aurélie. Justement, elle parle du couple, de la vie de couple, et comment toute cette charge mentale et tout ce dont on parle depuis tout à l'heure a un petit peu chamboulé l'ensemble. Écoutez.
Je trouve que la charge mentale a une incidence aussi sur la façon dont on perçoit les choses. Aujourd'hui, comme c'est moi qui gère le quotidien, je me rends compte que parfois, une petite remarque ou juste une question, quand il me demande si j'ai pu faire quelque chose dans la journée, peut m'irriter plus facilement parce que je lui réponds que j'ai pas eu le temps et sur un ton assez désagréable. C'est compliqué parce que je ne souhaite pas rentrer dans le conflit et j'ai pas l'impression qu'il mesure... Tout ce qui est fait en fait au quotidien, parce que effectivement s'occuper d'un bébé c'est plaisant, c'est gratifiant, surtout quand le bébé est assez facile à vivre, mais il n'en reste pas moins que c'est fatigant de la divertir, de lui donner des biberons, de la changer, et à côté de s'organiser pour le ménage, les repas, les courses, les rendez-vous à l'extérieur, pour elle comme pour moi. Tout ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de pensée, dans le sens où il faut toujours avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer. Alors oui, j'ai rendez-vous à 13h, alors est-ce qu'elle aura bu? Est-ce qu'il faut que je prévoie ci, ça? Est-ce que j'emmène un bib avec moi? Est-ce qu'elle dormira? C'est beaucoup d'anticipation et cette anticipation-là fatigue. Et effectivement, c'est compliqué parfois de le dire à son conjoint parce qu'on a peur de ne pas être comprise, de passer pour une ingrate, alors qu'il en fait déjà un petit peu à la maison. Et après, forcément, de rentrer dans un conflit. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Comment lui faire entendre, lui faire comprendre que effectivement aujourd'hui, même s'il en fait à la maison, un peu plus ne serait pas de refus. Parce que effectivement, comme je le disais précédemment, moi j'ai l'impression qu'il se repose sur moi parce que je suis là, mais moi j'ai pas vraiment l'impression que je puisse me reposer sur lui. Quand il est là.
Aurélia Schneider, là aussi, témoignage intéressant d'Aurélie. Moi, j'ai retenu ces mots. Elle ne veut pas rentrer dans le conflit. En fait, elle ne veut pas paraître pour la chieuse. J'imagine qu'elle n'a pas osé le dire, mais c'est un petit peu l'idée. D'ailleurs, c'est sans doute une bonne idée de ne pas vouloir s'embrouiller avec le papa. Mais comment elle peut faire néanmoins pour lui en parler? Parce qu'elle ne peut pas tout garder pour elle.
Ça, c'est un témoignage très intéressant. Il y a cette histoire de conflit. Elle dit, en fait, je vais faire une réponse globale. Elle dit des choses fondamentales. Elle dit, s'occuper d'un bébé, c'est plaisant, mais c'est fatigant. Et alors elle énumère des choses qui sont totalement vraies. C'est-à-dire, en priorité, les histoires de gestion du temps.
Il faut gérer son temps et il faut être en permanence avec un rétro-planning dans la tête. On doit se déplacer. Qu'est-ce qu'on emporte pour se déplacer? Et là, le truc qui pourrait être juste le bébé dans un petit, vous savez, ces porte-bébés là maintenant qu'on a, en fait, il y a une valisette qui va avec, hein, la vie de biberon, le machin, la table allongée, enfin, tout. Et donc, elle a raison, c'est fatigant, c'est de l'anticipation. Et ça, en fait, ça peut pas être partagé avec un conjoint, puisqu'on va pas raconter au conjoint qu'on s'est demandé s'il fallait emporter la valisette pour aller chez le pédiatre. Parce qu'en fait, ça va pas l'intéresser. Et donc, effectivement, ça peut avoir l'air, bon, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, pas forcément conflictuel, mais disons que ça n'aura pas d'intérêt. Elle le sent bien. Et un autre point qu'elle a pas souligné, que moi je souligne, parce qu'il fait partie du dossier, c'est la solitude. On ne mesure pas quand on est avec un tout petit bébé. La solitude à laquelle on est confronté. C'est merveilleux de s'occuper de son bébé, mais on est tout seul. Et on est tout seul, justement, pour un tas de trucs, de micro-décisions du quotidien, qui sont parfois plaisantes, hein, savoir si on va l'habiller avec un petit body bleu ou un petit body vert, mais plein d'autres choses qui nous incombent de décider. C'est très important de dire ça, parce que dans une enquête qui avait été menée, notamment au niveau des pays nordiques, les hommes disaient qu'en fait ils se trouvaient tout seuls aussi, que c'était très bizarre. Bah oui, mais les femmes se plaignent jamais de ça, en fait, parce que si elles s'en plaignaient, on dirait mais t'es folle, t'as un bébé, donc t'es jamais seule avec ton bébé. Bah si, le bébé il parle pas, on est tout seul. Et il y a un autre truc aussi.
Pardon, je vous coupe. On peut aussi parler de l'ennui. Il y a des moments d'ennui quand on est seul du matin au soir avec son bébé. On va pas parler avec ça aussi, on peut le dire. C'est peut-être l'occasion des moments où on va culpabiliser même de s'ennuyer un peu.
Je sais pas si on s'ennuie. J'en sais rien. C'est une question. Faudrait mener l'enquête. Une chose est sûre, c'est qu'on se demande quand on va prendre sa douche. Et c'est, sans rire, c'est un vrai, vrai souci. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si le bébé va se réveiller pendant qu'on est dans la douche. On ne va pas l'entendre. Et donc, on en fait vraiment. On monte ça en épingle parce que c'est angoissant. Donc, il y a plein de choses que l'on n'ose pas faire, que l'on n'ose plus faire, qui pourraient nous donner du confort, qui pourraient être agréables pour nous. Et ça n'est pas partageable non plus. Comme on le disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est source de conflit, mais c'est dur à partager qu'on n'a pas réussi à prendre sa douche. Parce que surtout, les hommes ne fonctionnent pas de cette façon-là. Effectivement, il y a une différence. C'est ce que disait tout à l'heure Marion. Ils ne fonctionnent pas comme nous.
Vous diriez que les hommes ont une légèreté en plus ?
Alors, je ne sais pas si les hommes ont une légèreté, mais ils n'ont pas du tout la même sensation de la gestion du temps. Ils vont pas s'encombrer, et peut-être ils vont pas prendre un biberon, mais ils vont se dire c'est pas la mort. Ils vont pas du tout avoir les mêmes réflexes.
Est-ce qu'ils ont pas un peu raison ? C'est-à-dire que oui, c'est pas forcément la mort si on oublie l'ensemble de la valisette.
Mais oui, alors ils ont raison, mais sauf qu'ils n'ont pas été tout seuls en charge du petit en général. Parce que le congé paternité, c'est un congé avec la maman. Et le congé paternité tout seul, en fait, ils savent pas trop, les hommes. Et c'est sûr que un enfant qui crie parce qu'il hurle de faim, ça va pas forcément leur apparaître comme si embêtant que ça. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a des prises de conscience qui sont totalement amorties par les femmes, qui elles sont en charge de ces tout petits bébés dans un truc formidable, hein, c'est une bulle. Mais les hommes n'ont pas cette conscience-là. Et c'est presque un handicap, parce que s'il l'avait, probablement que des tas de réactions se passeraient naturellement, de prise de conscience, et qu'on pourrait bien mieux partager sur des journées où chacun connaîtrait ce que vit l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui rentre le soir après le boulot, il connaît pas forcément ce qu'a vécu sa femme.
On arrive au bout de ce podcast, Aurélia Schneider. Si je devais résumer un petit peu ce qui s'est dit et les conseils pour être le plus concret possible, ce qu'on a été, en gros, il faut prioriser ce qu'on met dans la charge mentale. Il faut déléguer et pas demander au mari de l'aide.
Partager plutôt que déléguer. C'est dire, tu es responsable de ça de A à Z.
Je suis bête, j'ai répété ce qu'il ne faut surtout pas dire. Au contraire, il ne faut pas déléguer. Il ne faut pas dire, viens m'aider. Mais non, on partage.
Et je trouve que votre erreur là est tout à fait intéressante, parce qu'elle nous montre vraiment le travail qu'il y a à faire. Et c'est un travail qui, dans un couple qui a envie de fonctionner ensemble, est un travail qui est très positif. Il faut le prendre comme quelque chose de très positif. Et il faut aussi partager avec les enfants.
Ah oui, il n'y a pas de raison, hein, que eux ne prennent pas leur part. Et la dernière chose, c'est parler. si j'ai bien compris, essayer de se parler sans se reprocher des choses, essayer de se comprendre.
Dire les choses très simplement telles qu'elles ont été, et si on est trop fatigué, le dire, et puis peut-être le dire pas qu'à son mari, le dire à son médecin, parce que la fatigue qui dure, moi j'aime bien en tant que médecin savoir que ça va pas et pouvoir prendre peut-être des décisions.
Et le dernier bon conseil que l'on peut donner, c'est d'acheter La charge mentale des femmes, sorti aux éditions Larousse. Livre donc signé Aurélia Schneider. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt.
À bientôt, merci.
Pour aller encore plus loin dans l'échange sur le sujet, pour voir aussi que vous êtes loin d'être le ou la seule à galérer avec cette histoire de charge mentale, je vous renvoie au compte Instagram Ta pensée à. Ta pensée à. Colline, qui a créé ce compte, il recense plein de témoignages de femmes qui racontent leur charge mentale. Voici quelques extraits que l'on peut lire sur ce compte.
Pour moi, la charge mentale, c'est quand je fais réciter la poésie de mon fils tout en lançant une machine, tout en rappelant au père que le judo est à 18h30. J'ai 4 enfants et cela ne s'arrête jamais. Pour moi, la charge mentale, c'est quand je refuse une deuxième activité physique à mon fils, car je sais que je vais devoir courir entre toutes mes tâches. Pour moi, la charge mentale, c'est quand nous sommes en garde alternée, après que mon ex se soit battu pour cela, le mercredi soir, il dépose notre fille, et le linge sale qui va avec. Garde alternée, oui, mais lessive pour maman. Pour moi, la charge mentale, c'est quand il me dit « Notre fils tousse encore, il faut l'emmener chez le médecin. » T'as aussi le droit d'y penser et de prendre le rendez-vous. Pour moi, la charge mentale, c'est quand mon copain me dit avec fierté qu'il a tout préparé pour que je puisse faire son repassage. Il a sorti son linge, sorti le fer à repasser et la planche, mais il attend que je le fasse pour lui.
Voilà, 5 extraits, je vous rassure, il y en a 10 000 autres sur le compte qui s'appelle « Ta pensée à ». D'ailleurs, toi qui m'écoutes, t'as pensé à parler à tes copains, tes copines de ce podcast ? Ça, c'est à mettre dans la charge mentale, celle qui est acceptable. Voilà, c'est la fin de cet épisode, le 5e du podcast des maternelles, un podcast réalisé, comme toujours, par Alexandre Ferreira pour France Télévisions et de P2L, le tout sous la houlette de Jérôme Caza, d'Olivier Macron et bien sûr d'Aurélie Taguet. Merci à Isabelle Tepper et Agathe Le Caron pour leurs bons conseils, à Sarah Kalman pour la lecture des charges mentales et bien sûr merci à celles qui ont accepté de se raconter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite note et même un commentaire, on est disponible partout, sur Apple Podcasts, sur Castbox, Spotify, France.tv ou sur le site de la Maison des Maternelles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, on se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à me suggérer des thèmes. Vraiment, tous les thèmes sont les bienvenus. Allez, à bientôt, j'espère. Salut à tous. Tiens, mais au fait, je fais le malin là. J'ai pensé à réserver le centre de loisirs. C'était aujourd'hui, non, la deadline ?